Les enfants de Chronos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vincent Bartier de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin. Le groupe des divisions d'entraînement accueille, comme nous l'avons vu précédemment, entre autres l'école de la TSF, mais ce centre de formation est vraiment un centre unique en son genre, car il n'existera plus jamais sur le territoire national une telle structure militaire qui voit en même temps et en un unique lieu tout ce qui permet de faire fonctionner l'aviation. Et pour compléter ce centre de formation, nous allons y trouver un service de santé qui permet de soigner les malades et surtout les blessés du groupe des divisions d'entraînement. Mais il y a aussi une autre utilité qui est d'une très grande importance pour la part du médical dans le recrutement et surtout le suivi des aviateurs. Le service de santé du GDE participe à des expériences novatrices, mais nous évoquerons cela un peu plus tard dans le propos. Comme je viens de vous le dire, le GDE a sa propre infirmerie qui permet d'accueillir toutes les victimes d'accidents sur le terrain ou aux alentours, mais aussi les malades du centre. Ces blessés ou malades sont d'abord traités sur place et, en fonction de la gravité, ils sont évacués, soit vers l'hôpital de la Madeleine à Ermenonville, soit à l'hôpital militaire américain de Juilly, en Seine-et-Oise à cette époque et en Seine-et-Marne actuellement. Cet hôpital américain est installé dans le collège de Juilly. Les blessés et malades peuvent aussi être transférés à l'hôpital de Senlis. Mais seul le terrain du GDE du Plessis-Belleville a une telle structure. Ses annexes, pour rappel, elles se situent à Vérines, Thiers-sur-Thève, Sacy-le-Grand, Pierrefonds. Elles ne possèdent aucune infirmerie, donc les aviateurs sont évacués directement vers les hôpitaux les plus proches. Comme par exemple l'hôpital numéro 47 situé à Ognon, où sont transportés les malades ou les blessés qui se trouvent à l'annexe du GDE de Raré. Cette annexe a subi, entre autres, la nuit du 16 au 17 juin 1918, un bombardement violent qui coûte la vie à 13 aviateurs et environ 30 blessés. Ces blessés sont admis à l'hôpital d'Ognon, tout proche. Revenons maintenant à notre sujet. L'aviation militaire voit le jour lors de la Première Guerre mondiale et par la même occasion la médecine aéronautique. Le service de santé du GDE va jouer un rôle important dans cela. En effet, au début du conflit, la médecine aéronautique ne pèse pas grand-chose face à ceux des millions de fantassins qui ont besoin de soins. Les aviateurs ne sont donc pas prioritaires pour le service de santé. C'est pour cette raison que les précurseurs de la médecine aéronautique naissantes ont été pour l'essentiel des médecins civils mobilisés, dont certains sont aussi des pilotes. Ces médecins ont réussi à se faire entendre par le commandement de l'aéronautique. Ils ont réussi à établir un barème d'aptitude médicale spécifique aux aviateurs, aussi bien d'un point de vue physique que psychologique. Cependant, ce barème a vite vu ses limites car il est fréquent qu'un militaire inapte au service des armées est considéré comme apte au pilotage des avions. Ce mode de recrutement est néfaste car les accidents d'avion sont très nombreux, non pas par les combats, mais plus pour des incapacités physiques. Il va falloir du temps pour faire bouger les choses, et deux circulaires plus tard, les conditions des aptitudes médicales sont beaucoup plus drastiques. Le général Duval, directeur du service aéronautique du quartier général, décide de regrouper les moyens de sélection dans des centres spécialisés. Il est alors créé le service médical spécial à l'aéronautique. Il est chargé de l'examen des candidats aussi bien du point de vue psychologique que physique, tel que la cardiologie. La dernière instruction de mai 1918 apporte un complément non négligeable car elle oblige à créer un dossier médical individuel qui doit suivre le personnel navigant dans toutes ses affectations tout au long de sa carrière. L'un de ces centres spécialisés est installé au Grand Palais à Paris et un autre dans le Valois, au groupe des divisions d'entraînement du Plessis-Belleville. Sous l'autorité du docteur Pierre Maublanc et Victor Ratier. Le groupe des divisions d'entraînement est mis à contribution pour tester des nouveaux matériels émanant de la direction des inventions. Le docteur Pierre Maublanc et Victor Ratier vont faire tester à des milliers d'avisateurs un fauteuil à bascule posé sur un axe oscillant vertical inventé par le docteur André Broca. Ces essais rendent des services très appréciables car ils ont permis de préciser la rapidité avec laquelle un sujet perçoit les changements de position dans l'espace et aux accélérations pour essayer de trouver des solutions et éviter certains accidents. Ce test est aussi utilisé par les médecins pour faire une sélection et exclure les pilotes n'ayant pas suffisamment de bonnes conditions physiques pour rester. Nous pouvons penser que ce siège est l'ancêtre de la centrifugeuse qui est créée pour les astronautes bien plus tard. Le médecin Pierre Maublanc et Victor Ratier suivent le GDE dans son déménagement et ils continuent leurs essais à Chartres. Ces deux praticiens vont même écrire en 1919 un guide pratique pour l'examen médical des aviateurs et des candidats à l'aviation. Cet ouvrage est réalisé car ils ont étudié dès le début du conflit un nombre considérable de candidats à l'aviation, que ce soit les élèves, les pilotes ou les moniteurs. Leur situation de médecin du groupe des divisions d'entraînement est en effet unique à ce point de vue. Il ne faut pas oublier que le GDE est un passage obligé pour tous les aviateurs dès fin 1915. Cela permet pour ces deux médecins de tester toutes les spécialisations de l'aviation. On peut voir par l'ampleur de leur travail l'expérience approfondie qu'ils ont acquise grâce à ce panel complet mis à leur disposition. Ils ont eu l'occasion d'examiner des sujets de toute espèce, depuis le simple stagiaire jusqu'au pilote exercé, et qui ne veut pas renoncer à la carrière glorieuse malgré une insuffisance de physique causée par l'épuisement et les blessures. Cela est possible car, outre la finalisation de la formation initiale, le GDE voit passer aussi des aviateurs ayant une grande expérience dans les différents stages obligatoires diligentés au GDE. Les tests et examens pratiqués sur les aviateurs du GDE le sont sur le cœur, et le système circulatoire, les organes de respiration, les organes abdominaux, le système nerveux, la vue et l'audition. Ces derniers permettent de déceler les problèmes de vertige auriculaire. Et bien sûr, avec l'aide de l'ancêtre de la centrifugeuse, les impressions sensorielles, le temps de réaction aux variations d'équilibre. À l'issue du conflit, cet ouvrage a rendu de grands services aux praticiens qui sont désignés comme médecins d'aviation, sans aucune préparation préalable et qui jusque-là ont tout ignoré de l'aviation et des aviateurs. Au moment où la guerre se termine, la médecine aéronautique dispose d'une organisation et de structures entièrement nouvelles, établies grâce aux conceptions élaborées progressivement par quelques médecins novateurs, mais aussi grâce à l'action déterminante du général Duval, qui a parfaitement compris le rôle du service de santé et met rapidement en place un système cohérent. Cependant, la fin du conflit va d'abord être préjudiciable au service de santé de l'aéronautique, car tous les médecins sont démobilisés et reprennent leur activité civile en milieu universitaire ou hospitalier civil. Les matériels des centres militaires sont dispersés et le centre d'examen du Grand Palais cesse son activité. Il en est de même pour celui du GDE du Plessis-Belleville. Il est revenu dans le Valois en juillet 1918, mais il est fermé juste après l'armistice et tout est complètement démantelé avant la fin de l'année 1918. Ce désintéressement va perdurer car la précarité de l'organisation médicale française de l'aéronautique se poursuit contrairement aux armées anglaises, italiennes et américaines qui, elles, vont se perfectionner dans le domaine. Cependant, si le service de médecine de l'aéronautique militaire semble être complètement à l'arrêt, celui de la médecine aéronautique civile se développe et surtout continue l'évolution entreprise par l'armée pendant le conflit. Cela va permettre, à terme, de faire tout de même évoluer la médecine aéronautique militaire.